Marc au chapitre 2. Nous clôturons donc notre série, notre jeûne d'une semaine aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème c'était « Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi, connais mon cœur. Montre-moi si je suis dans la bonne voie et dans la mauvaise voie. » Et conduis-moi dans la bonne voie, la voie de l'éternité. Et aujourd'hui, je veux parler à nous tous, chrétiens, païens, sympathisants chrétiens, confirmés chrétiens. Je veux parler à nous tous que nous puissions écouter qu'est-ce qui est l'objectif principal de Dieu et qu'est-ce qui est l'enjeu principal de ce monde ? Le grand problème de l'homme. C'est pourquoi j'intitule ma prédication « Jésus est la solution ». Nous allons parler du grand problème de l'homme et montrer que finalement, il n'y a que Jésus qui peut résoudre ce problème-là. Le problème de l'homme, ce n'est pas un problème de religion, ni de crise économique. Ce n'est pas tout ça. Le problème de l'homme est simple, en même temps grave. C'est le mal. C'est ça le problème de l'homme. Et aujourd'hui, l'Église a transformé le vrai problème de l'homme en problème de bénédiction. Le problème de l'homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas l'or, ce ne sont pas les bénédictions. Le vrai problème, c'est le mal. Si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est parce que l'homme avait péché. Et ça a dérangé Dieu. Dieu avait décidé de sanctionner tous ceux qui ont le mal, de les écarter une fois pour toutes de la source de la vie, dans un lieu qu'on appelle le feu éternel. Et dans ce lieu-là, ils souffriront tout le temps. Ils seront écartés définitivement. Et que personne ne te trompe, ce lieu-là existe. C'est pourquoi Jésus est venu pour sauver les gens de ce lieu-là. Jésus est venu régler la question principale de l'humanité. L'enjeu principal, le problème principal, c'est le problème du mal. Ce n'est pas ta femme qui est ton problème principal, ni ton mari. Ce ne sont pas tes enfants qui sont tes problèmes. Ce n'est pas ton pays. Le vrai problème, c'est le mal. Et nous allons lire Marc 2 à partir du verset 1er. C'est écrit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Mais comment cet homme parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Alors, les amis du paralytique, dont un homme qui ne pouvait plus bouger, ses membres, donc il était couché sur un lit, ils l'amènent auprès de Jésus. Mais dans leur idée, c'est pourquoi qui l'amène auprès de Jésus. Certainement pour le guérir de sa paralysie. Certainement pour lui donner une nouvelle santé, de nouveaux membres. C'est ça leur idée. Mais arrivé là, ils descendent jusque le paralytique jusqu'au pied de Jésus. Surprise pour tout le monde, Jésus lui dit, « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Alors, Jésus, à travers ce passage, ce texte, il nous décrit la priorité des choses. Le vrai problème de l'homme, c'est le mal. Et ce mal se traduit par le péché, le fait d'enfreindre, de contrevenir à la parole de Dieu. C'est ça le vrai problème de l'homme. Que personne ne te trompe. Ton problème, ce n'est pas te marier. Le vrai problème, c'est le mal. Si le problème du mal est réglé, les autres problèmes vont se régler tout de suite. Et Jésus commence par le principal. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Les gens sont étonnés. Ils disent, mais comment? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais Jésus dit, mais vous allez comprendre que je suis Dieu justement. J'ai le pouvoir de donner la vie. J'ai le pouvoir de réparer les corps que moi-même j'ai créés. Alors, il ordonne à ce paralytique, lève-toi et marche. Il se lève, il marche et les gens étaient dans la joie. Jésus a montré que le vrai problème étant réglé, tout le reste devenait facile. Il fallait régler la question du mal. Bien-aimé, c'est ça la réalité. La religion a faussé tout ça. La religion vient avec une liste de choses à faire pour être correcte. La religion vient avec une logique de poste, de ministère. Viens, tu vas avoir un poste. Viens, tu es quelqu'un. La religion vient avec une logique de sous, d'argent. Donnez de l'argent et vous aurez ceci. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le problème du mal. Un autre problème, c'est que ce mal-là, justement, est sous-estimé. C'est d'ailleurs pourquoi ces gens-là pensaient, le monde qui entourait Jésus, pensait que le problème de ces paralytiques, c'était sa paralysie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes secondaires autour de nous qu'on finit par oublier le problème principal et on prend les problèmes secondaires, ça devient le problème principal. Donc les problèmes secondaires deviennent l'anesthésie qui nous empêche de savoir qu'on a mal. Vous savez, quand on vous a piqué, on vous a fait une piqûre d'anesthésie, et bien après un certain temps, même si on vous blessait avec un couteau, vous n'avez pas mal. Parce que vous êtes comme paralysé et vous n'avez pas mal. C'est ça l'anesthésie. Et notre société est devenue spécialiste de l'anesthésie par rapport au péché, par rapport au mal. Il y a toutes sortes d'artifices pour se soustraire à la réalité du mal. Soit on met au devant des problèmes d'argent, on met au devant des problèmes de couple, on met au devant des problèmes d'ambition personnelle au travail, on met d'autres choses en avant et on oublie le problème principal, c'est le mal, c'est le péché. Quand Dieu a fait le monde, il n'y avait pas de tremblement de terre, il n'y avait pas d'éruption volcanique, il n'y avait pas tout ce qui détruit. C'est le péché qui a entraîné le fait que les animaux deviennent cruels, sauvages. Dieu ne les a pas créés sauvages. Ils sont devenus sauvages par le péché. Donc le vrai problème, c'est le mal. Que personne ne te trompe. Si tu veux servir Dieu, il faut que tu le saches. Le vrai problème, c'est le mal. N'entre pas dans les systèmes qui vantent le remplissement des églises. Ce n'est pas ça le vrai problème. Parce que quand les partis politiques font des réunions, c'est rempli aussi. Les matchs de football remplissent les stades. Donc ce n'est pas remplir un endroit qui est important pour Dieu. Parce que les escrocs les remplissent aussi. Le vrai problème de l'homme, c'est le mal. Seul Jésus, dans cet environnement-là, savait que le vrai problème de cet homme-là, c'était le mal qui était dans son cœur. Il savait qu'il avait des péchés en lui. Les autres devaient s'imaginer, tiens, mais c'est un paralytique. Forcément, il ne pêche pas. Il va pêcher comment? Mais le caractère de beaucoup de personnes, c'est un péché en soi, la façon dont ça se manifeste.
Il y a beaucoup de gens qui ne font que murmurer dans leur cœur. Il y a des gens qui s'échafaudent des plans de suicide dans la tête. Il y a des gens qui s'échafaudent des plans de meurtre dans la tête. Rien que s'échafauder ces plans-là, c'est déjà péché. Et donc, les gens qui étaient autour sous-estimaient le mal qu'il y avait dans la personne. C'est comme nous aujourd'hui, nous sous-estimons le mal. Nous disons, nous cherchons des arguments. Ah tiens, c'est génétique. L'homosexualité, c'est génétique. C'est faux. Nous cherchons des excuses. Ah tiens, s'il commence à taper les gens comme ça, c'est parce qu'il a eu une enfance difficile. Oh. Donc maintenant, il peut donc taper les gens sans problème puisqu'il a eu une enfance difficile. Non, le problème c'est le mal. Il doit reconnaître, celui-là qui a eu une enfance difficile, malgré ça, doit reconnaître qu'en lui, il y a le problème du mal. S'il cherche à accuser les autres, c'est sans fin. Le vrai problème, c'est le mal qui est dans chaque homme, qui gêne. Les gens pleurent. Ah, la crise économique. Le pétrole coûte cher. C'est faux tout ça. Il n'y a pas de problème de pétrole. Parce que les fabricants de voitures ont la capacité de fabriquer des voitures qui consomment 5 fois moins que maintenant. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent... Il y a un club mondial de voleurs qui veut continuer à profiter des gens et qui empêche les fabricants de voitures de sortir les nouveaux modèles qui consomment le moins possible. Donc les gens qui lisent le magazine Auto Plus, dernièrement Mercedes a présenté un modèle qui va consommer 3 litres au 100. Mais ils veulent pas sortir ça. Pourtant s'ils sortent ça, tout le monde va l'acheter. Mais ils veulent pas. Parce que ils attendent il y a un timing de vol organisé international qui veut qu'on ne sorte pas ça pour le moment. Que les gens achètent cher. Et on dit, là, la crise économique, c'est faux. Il y a la crise du cœur. Le mauvais cœur. Des escrocs internationaux. Et ils viennent avec des vestes, on les voit à la télé, à Strasbourg, au Parlement européen, mais des escrocs. Bien-aimés. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème de l'homme, c'est le mauvais cœur. On dit il manque du lait, mais il y a 6 mois, on a dit aux agriculteurs de jeter le lait qui était en surproduction. Il fallait respecter un quota. Donc on a jeté du lait en grosse quantité. Et après on dit qu'il manque du lait. C'est faux. Il y a une organisation des mauvais cœurs pour contrôler les humains. Le vrai problème, ce n'est pas le manque de nourriture. Il y a des sociétés qui ont tellement produit de nourriture et qui jettent parce qu'ils ne veulent pas donner gratuitement aux gens. Sous prétexte qu'ils vont s'habituer et ils ne vont plus acheter. Ce n'est pas la nourriture qui manque sur la terre. Dernièrement, on a fait les statistiques. Moins de 20%, même moins de 10% de la population mondiale a toute la richesse. D'ailleurs, je crois me tromper, ça doit être moins de 2%. Les milliardaires, donc si on réunit leur argent, le moins de 2%, ça dépasse les 98%. Donc aujourd'hui, il n'y a pas manque de choses pour que tout le monde mange. Il n'y a pas manque. Dieu a fait bien les choses. Il a fait que chacun ait son petit terrain. Il a fait que chacun ait la nourriture. Il a fait bien les choses. Mais c'est le mal qui est dans le cœur de l'homme qui empêche cela. Les gens se réunissent pour organiser la souffrance des autres. Quand on dit, mais il y a guerre. À l'est du Congo, au Rwanda, il y a guerre. Mais vous pensez que c'est les autochtones qui veulent cette guerre-là? Ben non, on a trouvé un minerai spécial là-bas. Eh ben, donc il y a des bandits internationaux, chapeautés par les présidents occidentaux, ben qui chacun organise sa petite armée pour avoir son petit terrain d'exploitation du coltan, donc de ce minerai-là. C'est tout. Un minerai très important pour la fabrication des appareils électroniques. Et on dit, ben, il y a guerre, ils ne s'entendent pas, c'est faux. C'est des guerres organisées pour piller le sol des gens bien-aimés. On dit, ah ben, les Wallons et les Flamands sont divisés. Mais il y a des gens qui ont organisé cette division-là. Parce qu'ils vivent de la division. Le mal vit du mal. Le mal ne peut pas vivre du bien. Il a besoin du mal pour vivre. Et donc le vrai problème que le monde vit aujourd'hui, ce n'est pas un problème de crise économique. Ce n'est pas un problème de... puisque Dieu a abandonné les gens. Non, le vrai problème, c'est le mal. C'est ce mal-là qui fait que les gens deviennent homosexuels. C'est ce mal-là qui fait que les gens deviennent pédophiles. Vous voyez les contradictions? Quand on apprend qu'on a arrêté un pédophile, tout le monde crie au scandale. Mais chaque jour, à la télé, dans toutes les publicités, on ne cesse de montrer la nudité. Dans les panneaux à la rue, on ne cesse de montrer la nudité. Donc, d'un côté, on favorise la dépravation sexuelle. Après, on s'étonne qu'il y ait des pédophiles. Mais non, c'est la société qui organise cela. Le vrai problème, c'est le mal. Ce n'est pas que la société ne peut pas s'organiser. Non, il y a des gens volontairement à cause du mal. Ils ne veulent pas de cela. Le vrai problème, c'est le mal. Le problème du viol, c'est le mal. Que quelqu'un n'a pas su gérer, il entre dans le viol. C'est ça le grand problème. Il faut que tu comprennes que ton vrai problème est le problème de l'humanité, c'est le mal. Mais on met toutes sortes d'anesthésies. On passe Marc Dutroux, le célèbre pédophile belge. Il est en prison, mais il est tranquille en prison. Si on le vous montrait là où il est, mais... tranquille. Et on ne dit pas tout. Les politiciens, je crois au Portugal, qui étaient des grands pédophiles, qui prenaient des pédophiles dans un orphelinat. Vous avez entendu parler de ça? Le vrai problème, c'est le mal. Quand on est mauvais, on est mauvais. On a beau mettre un costume, cravate, on reste mauvais. Le problème, ce ne sont pas les lois. On peut mettre toutes sortes de lois. Si le cœur de l'homme est mauvais, il est mauvais et il produira que le mal. Et on ne va faire que souffrir. Les lois ne sont pas suffisantes. Ce qu'il faut, c'est le changement de l'homme. C'est ça le vrai problème de l'homme. C'est le mal. Avec ses conséquences graves. Il y a des gens, juste à cause de la colère, ils se font tuer. Un petit accrochage en voiture, à cause des embouteillages, ben, la colère t'anime, tu sors, tu vas crier sur la voiture d'à côté. Malheureusement, tu tombes sur un caïd. Ah. Lui, il ne discute pas. Lui, il parle. Son langage, c'est les revolvers. Tu es abattu juste à cause d'une petite colère. On se disait, mais ce n'était qu'une petite colère. Mais voilà les conséquences. Le problème de l'homme, il ne comprend pas que... Il ne comprend pas le proverbe du monde qui dit « Qui a bu, boira. » Un petit mal finira par produire un grave problème. Mais quand il est petit, on le sent pas. On est anesthésié. Hitler avait 4 ans. Et donc quand il avait 4 ans, il était déjà mauvais sûrement. On se disait, oh, il est turbulent peut-être, c'est tout. Ou bien on se disait, il est trop calme, mais un mauvais. Mais il y a d'autres aussi qui disaient, mais il est mignon. Parce qu'à 4 ans, tout le monde est mignon, à peu près, quoi. Donc, bien aimé. Et donc, certains devaient dire, il est mignon, mais un mauvais. Satan lui-même dedans. Donc, le mal, quand il est petit, tout le monde l'ignore. Tout le monde le banalise. On se réveille quand les conséquences sont là. Et on cherche des solutions parallèles, comme on dit, des produits palliatifs. On ne veut pas aller à la racine, dire, non, le problème, c'est le mal. C'est tout. Bien aimé, on écrit sur le paquet de cigarettes, fumez-tu. Ben, dans ce cas, on arrête les productions de la cigarette, c'est tout. Personne ne mourra s'il ne fume plus. On le sait, il n'y a qu'à laisser quelqu'un. Il y a des gens qu'on laisse en prison, on les serve par rapport à l'héroïne. Vous savez, l'héroïne, c'est dangereux. Mais ils ne meurent pas. Vous savez, quand vous êtes en manque d'héroïne, vous pouvez voir des monstres imaginaires. Donc, les gens qui ont été esclaves de l'héroïne le savent. Donc quand on te sève brutalement de l'héroïne, donc on t'empêche d'en prendre alors que tu étais habitué, parfois tu vas avoir l'impression qu'il y a le mur est devenu un monstre avec beaucoup de bras. Et donc c'est ça l'héroïne. Mais quand tu prenais l'héroïne, tu te sentais bien, ah, je m'évade. Mais bien aimé, cette évasion-là va finir dans le monde des monstres. Dans le monde des monstres. C'est ça le mal. Il est tout petit. On se dit, mais je m'évade, c'est bon. Mais quand ça va crier, quand ça va se réveiller dans ses conséquences, c'est le pleur et les grincements de dents. Bien-aimés, ne nous laissons pas anesthésier. Réveillons-nous. Le mal est mal. Si on se laisse anesthésier, on va voir le mal. On dit, mais non, mais ça passe. C'est parce qu'on est anesthésié par toutes sortes de faux raisonnements, par toutes sortes de logiques. Le mal est grave. La colère, c'est grave. Le mensonge, c'est grave. La jalousie, c'est grave. À cause de la jalousie, tu vas mentir. Et pour cacher ton mensonge, tu vas encore mentir. Et ainsi de suite. Le mal est grave. À cause du mal, il y a des enfants qui souffrent parce que leurs parents divorcent. Mais leurs parents divorcent pourquoi? Ça a commencé par un petit problème. Puisque on sous-estime le mal, eh bien, ça devient de plus en plus un grand problème. Mais si on remonte à l'origine, ce n'était qu'un petit problème. Mais l'égoïsme qui est dans l'homme, l'orgueil qui est dans l'homme, l'empêche de s'humilier pour un petit problème. Et ce problème va grandir et va détruire la vie des enfants innocents. Des enfants qui n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Parce que le papa n'a pas su gérer son orgueil, la maman n'a pas su gérer son orgueil. Le mal est dangereux. Il faut le haïr. Il est dangereux. C'est ça le vrai problème. Et quand Jésus était en face de cet homme-là, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. C'est ça qui t'embête. C'est le mal qui t'embête. Tes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ est la solution. Vous savez, qui nous pousse à faire le mal? C'est un certain démon principal qu'on appelle Satan, avec son armée. Eh bien, lui, son problème, c'est de te pousser à faire le mal en te disant, non, c'est bon. Une petite colère, ça ne fait pas de mal. C'est bon. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on était jeune, il y avait certaines rues, avant de passer à cette rue-là, tu te crées une sorte de colère pour essayer de pâter qui, je ne sais pas. Donc, avant de passer, tu passes comme un chef, tu te crées toi-même la colère. Mais Satan te dit, crée-toi la colère. Maintenant, un jour, ça va mal tomber, il y a quelqu'un aussi qui se crée la colère. Lui, vous rencontrez sur le même chemin. Eh bien, il faut que quelqu'un gagne. Hein? Ah. Il faut que quelqu'un gagne. Après, c'est l'humiliation. Oh. Vous avez vu ce qu'on lui a dit. C'est l'humiliation. Et l'humiliation, toi, tu vas chercher la vengeance. La vengeance, et puis meurtre. Et puis, tu te retrouves 30 ans en prison. Tu ne comprends pas. Tout ça, ça s'est passé très vite. C'est ça, le mal. C'est très, très dangereux. Nous devons le savoir. Ne pas nous laisser anesthésier. Soyons transparents. Il y a un problème en famille. Soyons transparents. Disons-le et réglons. Ne cachons pas. En cachant le mal, il prend le temps de se développer et de bien détruire. Bien-aimés, il est dangereux. Et nous devons prendre conscience de ça. Et quand Satan te pousse à faire le mal, dans ce monde, il est très content. Il te pousse à aller, vas-y. Je suis avec toi, mais il ne te dit pas qui il est. Donc, il dit, le mal, c'est bien. Vas-y. Va chez le magicien. Prends le fétiche. Il y a des gens qui sont beaux, mais Satan arrive à les convaincre de prendre des fétiches pour avoir des femmes. Il y a des femmes qui sont belles, Satan arrive à les convaincre de prendre des fétiches pour les hommes. Alors qu'elles n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas besoin. C'est ça. Quand je regarde ces gens-là, je dis, mais vraiment, le diable est malin. Quelqu'un déjà, par sa position sociale, par sa position physique n'a pas de problème, mais on le convainc qu'il a besoin de fétiches quand même. C'est ça le problème. Comme on disait que certains commerciaux sont capables de vendre à un Touareg du sable. Donc, tu as du sable autour de toi en grande quantité, on te vend encore du sable. Parce que il sait manipuler. Il te vend quelque chose que tu as déjà. Et il te corrompt. Mais maintenant, lui, il attend un moment. Le jour de ta mort. Dès que tu meurs, il se positionne près de Dieu pour dire, il est à moi. Dieu va dire, mais pourquoi? Ben, il a volé. il a menti, il a fait ceci, et il t'a pas cherché Dieu, Dieu va dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux le prendre. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Sache que tout ce que Satan te fait faire aujourd'hui et te dit que c'est un petit bobo, ce n'est rien du tout. Dieu te comprend. La preuve d'ailleurs, hier tu as prié, tu as senti la chaleur, non? Donc Dieu est avec toi. Donc tu peux toujours faire le petit mal que tu fais là, il est avec toi. Continue. Comme il y a certains pasteurs qui disent, c'est pas grave. Quand tu te masturbes, tu le fais devant Dieu. Il te comprend. Oh! Bien-aimé, c'est des escrocs. Allez, c'est pas grave. Tout ce qui te dit là, c'est pas grave. Le jour de ta mort, ça va changer en grave. Et va dire à Dieu, c'est pas la peine. Il est à moi. Et Dieu va faire quoi? Dieu va chercher, mais est-ce qu'il avait cherché Jésus? Oh non. Il considérait que le prédicateur exagérait en parlant du péché. Il considérait que ils sont des extrémistes. Oh non. Un pasteur l'avait encouragé. Et comme c'est un pasteur qui a 10 000 membres, donc il a considéré que c'était la vérité. Mais la vérité, c'est dans la Bible. Ce n'est pas dans une église. C'est dans la Bible. L'église n'utilise que la vérité qui est dans la Bible. Ce n'est pas une église qui détient la vérité. La vérité est dans la Bible. Et toi, on t'a trompé par un pasteur parce qu'il avait du succès. Où est-ce que dans la Bible c'est écrit que quand quelqu'un a du succès, donc c'est là que Dieu est avec lui? Non, ce n'est pas écrit. Au contraire, la Bible dit le contraire. Si tout le monde vous aime, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas la vérité. Parce que la vérité va forcément gêner des gens. Les gens n'aiment pas la vérité. Bien-aimés, ce jour-là, Satan va se transformer en accusateur. La Bible l'appelle l'accusateur. L'accusateur. Voilà son nom. Et il va t'accuser avec violence. Avec violence. Alors il y a la solution pour les deux problèmes. Un, pour le problème de l'accusation du diable. Qu'est-ce qui peut te sauver de ça? Une église. Montre-moi un verset de la Bible qui te dit que parce que tu es venu régulièrement dans une église, tes péchés sont pardonnés. Un jour, j'étais avec un musulman. On a fait le voyage du Maroc en France. Il se prenait pour spirituel. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu peux me dire en fonction de quoi tu seras sauvé? Tu iras au ciel auprès de Dieu. Qu'est-ce qui te rassure que tu iras là-bas? Il a cherché. Je vous dis, il se prenait pour spirituel, donc il était tellement gentil, quoi. Donc il voulait prouver que c'est le genre, ça s'appelle les soufis, donc c'est les musulmans mystiques. Donc leur vie ressemble un peu à la vie des bouddhistes. Donc ils veulent montrer la joie, montrer une sorte de une sorte de paix. Et je lui dis, mais montre-moi comment toi tu es sûr que tu seras sauvé. Qu'est-ce qui te garantit cela? Il a cherché. Il m'avait même donné son poulet qu'il avait amené. Lui-même ne mangeait pas. Il m'a donné son poulet. Presque entier. Tellement il voulait passer pour être gentil. J'ai dit, montre-moi où est-ce que tu as la garantie que tu es sauvé. Il a cherché. Le débat n'en finissait pas. Moi, j'ai dit, non, c'est simple. Dis-moi sur quoi tu te réfères pour montrer que tu es sauvé. Il connaissait le Coran. Il a cherché et il s'est enfin énervé parce qu'il n'a pas trouvé. Il a voulu me donner des arguments. Moi, j'ai dit non. Dieu est juste. Puisque tu as fait le mal, il doit te punir. Le seul moyen de réparation, c'est que tu sois sanctionné. Parce que Dieu, dans sa justice, je donne l'exemple simple de notre monde. Jamais tu n'iras voir le juge, tu dis, je demande pardon, donc annulé. Non, d'accord. Merci monsieur, mais 3 ans de prison, on accepte ton pardon. Donc si les juges de ce monde sont obligés pour être justes de sanctionner le mal, à combien plus forte raison Dieu qui est plus juste qu'eux. Dieu qui est plus irrité par le mal que eux. Parce qu'il faut savoir que nous, on est irrité par le mal. C'est pourquoi on a fait notre société qui ait des juges qui punissent le mal. C'est parce que le mal nous irrite aussi, à un certain niveau. Mais maintenant, il faut savoir que l'irritation de Dieu par rapport au mal est plus grande. Elle est plus grande. Et donc, sa sanction aussi sera plus grande, puisque son irritation est plus grande. Donc, tu ne peux pas me donner des explications comme quoi tu as été à l'église régulièrement, comme quoi, non, on a discuté, il s'est énervé parce que finalement, il n'a pas trouvé. Il était bloqué. Bien-aimé, cherche dans ton cœur, qu'est-ce qui te garantit? Cherche dans la Bible. Ce n'est pas l'imposition des mains d'un pasteur. Ce n'est pas le fait que tu sentes la chaleur que quand tu pries. Ce n'est pas le fait que tu parles en langue ou tu prophétises. Ce n'est pas le fait que Dieu fait des exploits avec toi. La Bible nous montre des exemples des gens qui ont fait des exploits avec Dieu, mais qui ont été rejetés. Saül a été rejeté malgré les exploits avec Dieu. La Bible nous montre cela. Le serviteur d'Élisée a eu la lèpre malgré les exploits qu'il avait fait. Dieu, comme on a lu d'ailleurs ce passage hier, il peut t'élever et te rejeter comme s'il ne te connaissait pas. Dès que tu prends le péché, il y en a qui se disent, mais si Dieu n'était pas si d'accord avec notre Église, avec nous, comment prospérons-nous? Nulle part dans la Bible on dit que tu seras certain de l'approbation de Dieu en fonction de ta prospérité. Ce n'est pas écrit nulle part. Ce qui est écrit, c'est que tous ont péché et le salaire du péché, c'est la mort. Et le diable va venir auprès de Dieu dire, non, ils sont à moi. Tu vas dire quoi? Mais nous, nous avons la solution. Jésus-Christ. Jésus-Christ a été frappé à cause du péché de toute l'humanité. Il a subi la sanction, de sorte que la colère des dieux a été assouvie. C'est-à-dire, il fallait que quelqu'un paye pour toute l'humanité, mais il fallait que ce soit une personne sans péché elle-même. Parce que si toi-même tu as le péché, tu ne peux pas sauver quelqu'un d'autre qui a le péché. Jésus-Christ a été condamné à notre place, lui qui était innocent. C'est comme si toi tu devais aller en prison, ton jumeau prend ta place. Automatiquement tu sors. Tu es libre. Et Jésus a pris notre place. Et il est mort à la croix. Nous en avons la preuve. Son sang a coulé afin que nous ayons le pardon des péchés. Donc nous, on peut se dire, ben, il n'y a plus de condamnation plus pour nous parce que quelqu'un a payé à notre place. Mais bien sûr, il faut croire en ce Jésus. Bien sûr, il faut lui confier sa vie parce que s'il faut qu'il meure à ta place, il faut que toi, tu prennes sa place. Admettons que toi, tu prends la place, ton jumeau prend ta place en prison. Quand toi tu sors, tu prends les papiers de qui? Du jumeau. Parce que si tu ne peux pas vivre avec tes papiers, on dirait mais non, ces papiers c'est quelqu'un qui est en prison. Physiquement vous êtes identiques, mais les papiers, les noms sont différents. Il prend ta place, toi en sortant, tu es obligé de vivre sous son nom en lui, sous son identité. S'il était agriculteur, tu deviens agriculteur. S'il aimait les chemises bleues, tu prends les chemises bleues. Tu prends sa vie, tu prends sa place. Et donc nous qui avons été sauvés par Jésus, on a fait un échange. Il a pris notre place à la croix. Et nous avons pris sa place dans la vie. Nous vivons maintenant, nous sommes Jésus. C'est ça l'alliance, c'est ça le contrat qu'il faut faire. Jésus dit, je prends ta place à la croix, toi tu prends ma place dans la vie. Donc moi, je te remplace aussi dans la vie. Donc c'est un remplacement total. Il te remplace et à la croix et dans la vie. Il ne peut pas te remplacer à la croix. Et toi, tu continues avec ton ancienne identité. Mais on va dire, mais non, cette identité, c'est l'identité de quelqu'un qui doit aller à la mort. C'est quelqu'un qui est voué à l'enfer. Il faut que tu sois dans l'identité de Jésus. C'est ça le contrat. Aujourd'hui, quand on devient chrétien, on signe le contrat de mort. Mon identité ancienne est morte. Maintenant, j'entre dans l'identité de Jésus-Christ. Et là, quand Satan, au dernier jour, va se ramener pour dire, tu as menti, tu as volé, tu as trompé, Dieu va dire, c'est vrai, tu as raison, il mérite la mort. Mais, il y a un mais qui vient, il y a eu échange. Jésus a pris sa place. C'est pourquoi il a été condamné à la croix. La Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. La Bible dit dans Romains 8, qui nous condamnera, qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, c'est fini. Effectivement, Satan va venir parce qu'il ne se lasse pas d'accuser. Il va t'accuser. Mais Dieu dira, oui, tu as raison. Mais l'échange a été effectué. Jésus a pris sa place. Il y a eu substitution. Jésus a pris sa place à la mort. Jésus a pris sa place encore dans la vie. Donc c'est bon. Mon fils a payé à sa place. Le sang de l'agneau efface les péchés. C'est ça la garantie que nous avons. Donc la solution pour le jugement, c'est Jésus. Et puis je veux parler d'autres problèmes que l'humanité rencontre, mais liés toujours au premier, le mal. Le mal produit la maladie. Et la maladie décourage. Avant, il n'y avait pas de maladie. La maladie est venue avec le péché. Et cette maladie fait des dégâts. Les maladies font des dégâts, brisent les vies. Voyez ces paralytiques. Il était brisé par la maladie. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Jésus en action. Il dit, puisque je règle le problème du mal, je peux régler le problème de la maladie. Lève-toi et marche. Si la maladie a pour origine le mal, mais si le mal enlevé, donc on a autorité complète sur la maladie. Voilà la parole de Dieu bien-aimé. Jésus est la solution puisqu'il règle le problème de l'origine, donc forcément il règle le problème des conséquences. Et nous allons lire un autre problème que notre humanité rencontre qui rend la vie dure dans Luc 8. Bien-aimé, même si Jésus-Christ règle le problème de la maladie, souvenez-vous, le problème principal, c'est le problème du mal. Et quand Jésus guérit, ce n'est pas pour vouloir guérir l'humanité entière, parce qu'il sait que le problème du mal est réglé, un jour nous ressusciterons tous en bonne santé, une fois pour toutes. Mais quand il guérit sur terre, il atteste ainsi qu'il a réglé le problème du péché, qui est l'origine du mal. Il atteste que on a un avenir certain sans maladie, sans mal. Donc il ne guérira pas forcément tout le monde. Mais tous ceux qui croient en lui vont expérimenter sa gloire, malade ou pas malade, guérison par guérison, ils vont expérimenter sa gloire. Alors donc n'écoutons pas les gens qui transforment Jésus en producteur de guérison. Non, Jésus est la guérison, est la délivrance. Mais il a un plan pour chacun. Et nous devons, nous, dans la communion avec Dieu, chercher le plan de Dieu pour nous, réclamer notre guérison et suivre la marche avec Jésus dans la réclamation de notre guérison. C'est très important de suivre la marche avec lui. Il y a Lazare qui était mort, cela faisait 4 jours. Et Jésus l'a guéri après les 4 jours. Il y a des gens qui sont morts le même jour, Jésus les a guéris. Donc Jésus fera le miracle dans notre vie en fonction du timing qui va assurer l'avenir. Il ne va pas faire le miracle dans un timing qui va casser notre avenir. Des gens ont reçu le miracle dans le mauvais timing, mais ils ont renié Dieu plus tard. Suivons Jésus, nous n'allons pas suivre des prétendus guérisseurs, mais suivons Jésus pas à pas, c'est lui qui nous amène à coup sûr à la guérison, à la délivrance. Amen. Nous lisons Luc 8 à partir du verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les tombeaux. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et y trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Bien-aimés, un problème qui frappe l'humanité, c'est le problème des esprits mauvais. Ils sont partout. C'est eux qui sont à l'origine de l'homosexualité, c'est eux qui sont à l'origine la plupart des maladies psychiques. Vous connaissez l'anecdote que j'ai l'habitude de dire, de donner, qu'un fou était arrivé pour la première fois dans un hôpital de Paris, mais lui qui était arrivé pour la première fois connaissait déjà les noms des médecins. Il les appelait par leur nom. Comment a-t-il su leur nom? C'est qu'en lui, il y a des esprits, comme les esprits peuvent voyager facilement. Donc eux, ils savent, ils connaissent déjà les noms de ces médecins-là. Et quand tu vas voir le psychiatre, lui-même possédé par quelques esprits, bon, il ne sait pas quoi te dire. Vous allez faire du tralala avec quelques produits qui vont t'assommer, et puis voilà. Pas de solution. Et je rigole quand souvent dans les infos à la radio, dans ma voiture, j'entends souvent, il faut encore beaucoup plus de psychiatres en France. Il faut encore beaucoup plus de psychiatres en France. La dépression ne cesse de monter. Au lieu de dire la vraie version, il faut encore beaucoup plus de Jésus parce que les démons commencent vraiment à agir librement. C'est eux qui sont à l'origine de tout ça. C'est eux qui sont derrière les voyants. Ils possèdent les voyants. Et les voyants ne sont qu'un intermédiaire. Donc quand un voyant, tu vas chez lui, il a un démon qui te regarde et qui va vite dans ta maison s'informer et puis vient le dire. Voilà ce que tu peux dire sur lui. Donc il devient canal. Et je peux vous dire que ces voyants-là souffrent. Parce que ces démons-là, quand ils te possèdent, tu deviens leur voyant, leur intermédiaire. Ils ne vont plus te laisser tranquille. Tu veux manger, ils sont avec toi. Ils te disent de manger telle sauce et non pas l'autre. Posez franchement la question à un voyant. Comme souvent, il passe à Saint-Sever certaines semaines. Vous dites, c'est comment ta relation avec les démons qui te renseignent? Mais ils vous diront la souffrance qu'ils ont. Ils vous diront. C'est une galère terrible. Ces démons-là, oui, ils te donnent le succès, mais ils t'embêtent. Et tous les humains sont là à venir suivre ces choses-là. J'ai oublié le nombre de Français qui ont consulté les voyants l'année passée. On a donné les statistiques. C'est vraiment aberrant. Des gens qui se disent cartésiens. Où est le cartésianisme là? C'est aberrant. L'astrologie, le horoscope, tout ça. C'est les démons. Tu as l'impression que ça tombe bien sur toi, mais quand on dit journée un peu triste, avec quelques traits de bonheur, mais ça peut marcher avec tout le monde, bien-aimé. Il suffit que tu aies un tout petit peu mal. Oui, bon, ça c'est la côté journée triste. Et quelques sourires, ça c'est le côté trait de bonheur. Donc c'est du mensonge, c'est de la manipulation de ces mauvais esprits qui font des humains leur marchandise. Ils pullulent dans les terrains de football. Demandez à beaucoup de gens qui jouent au football. Ils ont fait des contrats avec des sorciers pour ne pas tomber dans les blessures graves. Beaucoup de choses. Moi, j'ai parlé avec ces gens-là. Ils vous diront, mais beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça rime tout ça. Ils prennent ça pour un jeu, mais c'est grave. Parce que l'une des plus grandes forces du diable, d'ailleurs c'est son nom, diable, ça veut dire menteur. Donc il te ment, il te donne l'impression que ce que tu fais n'est pas grave, mais c'est très grave. Et beaucoup sont en train de manipuler, de travailler avec ces esprits sans se rendre compte de la gravité. Et quand on parle de certains pays du tiers-monde, n'en parlons pas. Les sorciers, ils font la loi. Ils font la loi. Nous, on entendait des musiciens du monde, pendant qu'ils jouent leur musique, ils ne se cachent plus. Ils disent, maintenant, ça c'est de la magie. Et nous, on était là en train de danser. Oh, mais donc, lui, les démons te manipulent. Et puis, un jour, Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un. Pendant que c'était un concert, les gens dansaient. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu beaucoup plus de démons que les gens. En train de danser au milieu des gens. Donc, tu danses. Toi, tu danses avec une femme. Mais donc, tu danses avec un démon, tu le tiens, tu ne t'en rends pas compte. Elle aussi croit qu'il tient un homme. Elle aussi, elle tient un démon. Bien aimé, je ne rigole pas, c'est ça la réalité. C'est l'un des grands problèmes de l'humanité, les démons. Mais on veut cacher ça en Europe. Mais pourquoi les gens vont consulter les voyants? Pourquoi les gens vont consulter les médiums? Ils ont un succès fou maintenant. Ils vont consulter les morts qui parlent. Beaucoup d'enfants des écoles primaires font ce qu'on appelle le Ouija. Donc sur une table, ils mettent une sorte d'instrument qui fait parler un esprit, qui fait bouger une aiguille. Ça se fait tous les jours, mais on veut cacher ça. Harry Potter et la démonstration à l'école des sorciers. C'est écrit, le titre, c'est à l'école des sorciers. C'est une réalité. Et nous avons vu ce que, où était la solution. Jésus-Christ de Nazareth. Il a débarqué. En sortant du lac, il voit un homme possédé par plus de 5000 démons. L'homme vient comme pour lutter. Jésus dit, mais c'est quoi ça? Tu sors de cet homme. Oh non, s'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux. D'accord, allez-y. Mais sortez de cet homme. La Bible dit, dans Luc 4, 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et beaucoup des humains sont prisonniers des démons. Ils n'arrivent pas à s'en sortir de l'amour, de l'argent, de la colère, de l'orgueil. Mais ils croient que c'est lui-même. Mais ce n'est pas toi, c'est des démons qui te communiquent cet amour de l'argent. Ils te bloquent. Et Jésus-Christ libère les captifs. Mais il faut que tu t'humilies devant Jésus, il va te libérer. Jésus est la solution. Quand on entend parler d'exorcisme à gauche, à droite, c'est des faux. Ils utilisent une grosse croix. Qu'est-ce qu'un morceau de bois peut faire à un esprit? Il y en a qui vont vous donner des bidons d'eau à utiliser dans la maison. Mais est-ce que l'eau peut chasser? Mais dans la mer, il y a des esprits. Si l'eau devait chasser les esprits, donc la mer, il n'y en aurait pas dans la mer, dans les fleuves. Qu'est-ce que l'eau peut faire contre un esprit? C'est le nom de Jésus qui est le plus grand nom. Jésus nous dit dans Marc 16, 17, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Luc 10, 19. Et dans Marc 16, 17, il a dit, ceux qui croiront en mon nom chasseront les démons. C'est ça la réalité. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. Les gens qui sont à côté d'eux, qu'est-ce qu'ils leur disent? Oubliez les gens qui ratent les suicides. Posez-leur la question. La plupart vous diront, j'entendais une voix qui me disait de sauter par la fenêtre. J'entendais une voix qui me disait de me tuer. La plupart vous le diront. C'est des esprits de suicide, des morts, qui vont te mettre une sorte de pression pour t'ôter la vie. Comment comprendre qu'un enfant de 14 ans se jette par la fenêtre? Ça n'a pas de sens. Il a tant de choses à faire. Mais à un moment donné, quand on néglige le mal, eh bien, il se saisit de toi. Et un esprit vient en force sur toi te dire, jette-toi par la fenêtre, jette-toi. Tu te sens comme obligé. Demandez à beaucoup de gens qui ont raté le suicide, ils vous le diront. Et ces gens-là ont besoin de qui? De la solution. Ils n'ont pas besoin d'hôpitaux psychiatriques, ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est ça la réalité. Et nous voyons dans ce texte Jésus-Christ qui libère. Comme on n'a pas beaucoup de temps, un autre point bien-aimé. Toi qui cherches la bénédiction. Jésus dit dans Jean 14, 12 à 14, tout ce que vous demandez à mon Père, demandez à mon nom. Demandez à mon nom. Ceux qui croient en moi feront de grandes choses. Ils en feront de plus grandes encore. Demandons au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Jésus est l'enfant de Dieu, le fils de Dieu qui a été 100% correct avec Dieu. Et quand un fils est correct, on lui donne tout ce qu'il demande. Ne connaissons-nous pas tout ça quand on était enfant? Ben, quand un enfant réussissait bien à l'école, quand il était sage, ben c'est lui qui recevait la plus grande approbation de ses parents. Eh bien, Jésus-Christ est le Fils qui a reçu la plus grande approbation, la totale approbation. Donc, en passant par lui, on peut avoir tout ce que nous voulons, tout ce qu'on veut. En passant par Jésus, nous pouvons atteindre le cœur de Dieu. On ne peut pas venir à Dieu en disant, je suis un grand pasteur, Seigneur, exauce-moi. Non, on vient, Seigneur, Jésus est mon maître, il est mon sauveur. Et je viens en son nom te demander, Père, donne-moi telle chose. Et la Bible dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus la solution de la bénédiction. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus-Christ la solution. Si tu écoutes le vendeur des bénédictions, tu t'es fourvoyé. Reviens à Jésus. C'est Jésus qui te conduira au bon endroit pour être béni. Lui et lui seul. C'est en son nom que nous sommes bénis. Alléluia. Un autre problème de l'humanité, et peut-être après le péché, le plus grave, c'est la mort. La mort déstabilise les gens. Même les plus grands meurent. Mitran est mort. Il a beau dire, je crois en force des esprits, je resterai avec vous. C'est faux, il est mort, il n'est plus avec nous. Donc il est dans le tombeau. C'est fini. On ne fait que le critiquer maintenant à la télé. Il n'est plus là pour se protéger. J'ai entendu même que sa famille est en train de vendre des biens parce qu'il n'y a plus d'argent. Voilà la réalité. La mort finit même les plus grands. Staline, Hitler, ils sont morts. Je me souviens d'une histoire des gens qui étaient partis voir un féticheur pour qu'il leur donne de la magie pour qu'ils fassent beaucoup de succès. C'était des musiciens. La première fois, ils sont partis, ils ont eu leur magie, ils ont connu des grands succès. Les gens qui regardent les MC, je crois les MC Solar, qui fait des clips comme s'il était en enfer. Mais il a fait des contrats, vous croyez quoi? Donc, par plaisir, quelqu'un va faire un clip comme s'il était en enfer. Non, mais est-ce que toi, tu ferais ça? Un clip comme si tu étais en... Admettons que tu deviens chanteur. Tu ne ferais pas ça? Mais si tu le fais, c'est que tu as fait un contrat qui t'oblige à le faire. C'est cela. Comment expliquer qu'Harry Potter soit acheté donc pendant la nuit à plus de 100 000 exemplaires? Les gens viennent dormir des jours. Vous croyez que c'est... Non, parce que c'est beau. C'est, non, mais non. C'est des contrats magiques. Et ces gens-là sont partis. Ils ont fait leur contrat. Ils sont revenus. Succès fou. Mais comme le diable n'a pas la puissance définitive... Sa puissance se corrompt, meurt avec le temps. Eh bien, c'était fini cette puissance. Ils sont repartis voir le féticheur pour réclamer une autre dose. Et à quelques kilomètres de chez le féticheur, ils voient une 4x4 faire la route inverse, en urgence. Et puis comme c'est des routes où il n'y a pas beaucoup de voitures souvent, donc quand deux voitures se rencontrent, on se parle un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est en train de mener le grand féticheur là il a une fièvre de 40 degrés, ça chauffe là, on l'amène vite à l'hôpital. Oh, mais les gens qui étaient partis chercher le féticheur étaient étonnés. Mais il a la fièvre de 40 degrés, ben oui. Sa puissance est limitée. Il peut vous faire des gris-gris de magie. C'est zéro. Là, il est obligé de prendre les aspirines, bien aimé. Et le lendemain, et on leur a dit, attendez-le dans sa maison, il va venir le lendemain. Le lendemain, ils voient un monsieur venir leur dire, le féticheur est mort. Et ils ont dit, oh, mais il est mort. Mais oui, et toi, vous croyez quoi? Qu'il n'allait pas mourir. Il va mourir. Il va mourir. Michael Jackson, le succès, c'est fini. Nous, quand on était jeunes, on était petits, on avait l'impression que c'était un homme éternel, quoi. Il aura toujours le succès. L'album se vendait à 500 000 exemplaires la nuit seulement. Donc avant que ça sorte, là, à minuit, c'est déjà vendu. Mais là, c'est fini. Procès sur procès. Et la mort, c'est le clou de tout. Que tu le veuilles ou pas, la mort t'attrapera un jour. Nous avons la solution pour la mort. C'est Jésus. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vient à moi vivra, quand bien même il serait mort. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même. C'est ça Jésus. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est le plus grand champion. La mort qui a tué tous les prophètes. La mort qui a tué tous les grands artistes. Mais la mort a été vaincue par Jésus. Mais vers qui vas-tu chercher ta solution? Viens chercher ta solution auprès de Jésus. C'est lui qui a vaincu la mort. Je connais certaines personnes qui voulaient tellement toucher un serviteur pour que elles reçoivent la puissance. C'était Osborne notamment. Il cherchait à ce que le miracle se manifeste dans sa vie. Là, je passe de la mort en même temps à l'histoire des ministères. Je vais clôturer avec ça. Ceux qui cherchent le ministère par eux-mêmes, par l'approbation des humains, ils s'étaient dit, tiens, pour que je voie vraiment la puissance des miracles, on va faire une conférence et on va inviter une telle personne. Non, il a plutôt appris que dans une conférence, on va inviter telle personne qui fait beaucoup de miracles. Il s'est dit, bon, en allant là-bas, quand je vais voir, sûrement elle va me toucher, sûrement je vais recevoir quelque chose, je vais commencer moi aussi à faire les miracles. Une semaine avant, il apprend que le serviteur est mort, celui qui était invité. Il s'est dit, oh, j'ai loupé les miracles. Un mois encore, il entend qu'il y a une conférence. On va inviter un autre serviteur qui fait beaucoup de miracles. Et il s'est dit, ah, d'accord, cette fois-ci, je ne vais pas louper. Et il va là-bas. Non, il va une semaine aussi encore avant, on lui apprend qu'il est mort. Bien-aimé, les hommes meurent. Mais Jésus demeure à jamais. Ne cherchons pas le ministère, les miracles auprès d'un homme. Cherchons-le auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui nous amènera vers l'homme qu'il a choisi. Cherchons-le auprès de Dieu. C'est Dieu qui donne le ministère. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, c'est moi qui t'ai donné l'onction. Depuis quand? Toi, tu as eu ça où? C'est Dieu qui donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui les distribue. C'est ça la réalité, bien-aimé. Cherchons Dieu. Et puis la troisième fois, finalement, il est arrivé dans une de ces conférences-là qu'il voulait, à laquelle il voulait assister. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le miracle qu'il a vu. Il a vu quelqu'un qui connaissait Jésus qui parlait. C'était sa première fois d'entendre quelqu'un parler de Jésus comme s'il le connaissait. Il s'est dit, tiens, et ça lui a donné le goût de Jésus. Bien-aimé, et quand ça lui a donné le goût de Jésus, il commençait à prier. Et un jour, il a vu Jésus en vision. Il a béni le Seigneur. Mais le terminus de tout, c'est lorsqu'il a pris la Bible. Il a commencé à lire la Bible, il a vu Jésus dans sa parole. Et c'est à partir de ce jour-là que les miracles ont commencé. C'est Jésus-Christ le secret des miracles. On n'a pas le même timing que tout le monde. Chacun a son destin. Ne cherchons pas à copier les autres. Ne cherchons pas à imiter les autres. Et beaucoup que nous voulons imiter sont des serviteurs du diable. La Bible nous prévient. Beaucoup de faux prophètes mettent des peaux de brebis. En réalité, c'est des loups. Et on veut suivre la mode. Suivons Jésus. Et Jésus où? Dans la parole de Dieu. Pas dans les visions. S'il apparaît dans les visions, que Dieu soit béni. Mais c'est dans la Bible qu'on va le trouver réellement. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et cette parole est venue comme le Fils unique dans la gloire du Père. Est venu en chair. C'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est l'expression de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui s'exprime clairement aux hommes. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque veut aller dans le royaume de Dieu doit me manger d'abord. Doit intégrer ma parole. Doit m'intégrer tel que je suis exprimé dans ma parole parce que je suis la parole. Bien-aimé, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Tous les problèmes que tu peux citer. Je n'ai pas voulu citer encore d'autres, mais le plus grand problème, c'est le mal avec ses conséquences. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 16, 33, ne craignez point, peut-être que tu as peur de t'engager dans la vie chrétienne, parce que tu te dis, je risque de tomber, je sens que la tentation est forte en moi, je sens que je ne pourrai pas me détacher des choses de ce monde. C'est faux. Jésus dit dans Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu l'argent, toi aussi tu peux vaincre l'argent. S'il a vaincu l'impudicité, toi aussi tu peux vaincre cela. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu celui qui nous accusait. Parce qu'il a pris notre place à la croix. C'est lui la solution. Et donc que personne ne te trompe. La solution ne se trouve pas dans une église. La solution se trouve en Jésus. Jésus veut marcher avec toi. Comme un enfant. Il veut marcher avec toi pas à pas et t'amener dans les verts pâturages chaque jour. Jésus veut marcher avec toi. On a été fatigués de marcher dans les... On nous a fatigués par les systèmes. Aujourd'hui, Jésus veut récupérer son peuple. Il veut redevenir notre berger. Il veut marcher avec nous. Et il nous donnera peut-être des sous-bergers, mais c'est lui qui reste le grand berger. C'est ça qui est important. La solution ne se trouve pas dans une religion. C'est faux. La solution ne se trouve pas chez Marie. Non, Marie, la mère de Jésus, est déjà morte. Elle était que la mère de Jésus, homme. Mais elle est la créature de Dieu. Donc la créature de Jésus. Elle est tranquille au ciel. Laissons-la tranquille. Les démons qui apparaissent à Lourdes, les démons qui apparaissent à gauche, à droite, en Espagne, Ce n'est pas Marie, c'est des démons qui prennent l'image d'une femme. Et on dit que c'est Marie. Qui a déjà vu Marie pour savoir que c'est Marie? Réfléchissez vous-même. Qui l'a déjà vu pour dire, mais tiens, ça c'est Marie, mais toi tu l'as vu où pour savoir que c'est Marie? C'est faux tout ça, des escroqueries. Les gens souffrent avec des paralysies à Lourdes chaque année en payant des sous dans les hôtels. Vous savez, on a dit qu'à Lourdes, c'est la place hôtelière la plus grande après Paris. Vous vous imaginez, après Paris, réfléchissez. Qui est déjà parti à Paris? Vous imaginez que Lourdes, c'est après Paris, côté hôtel. Une si petite ville. Et vous croyez que Dieu est dans ces commerces-là? Ne vous souvenez pas de Jésus qui a frappé les vendeurs dans le temple? Et Dieu est dans ce commerce-là d'hôtel? C'était l'escroquerie. Et on voit la cérémonie avec 50 000 personnes et 500 prêtres en billets en blanc, comme des princes bien-aimés. C'est du mensonge. On escroque les pauvres gens qui ne comprennent pas la réalité. Ils sont là à souffrir chaque année en payant des sous. Or, Jésus sauve gratuitement. Bien-aimés, la solution n'est pas dans l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est diabolique. Le rassemblement des chrétiens, je ne sais pas quoi. Les vrais chrétiens sont déjà unis. Ils n'ont pas besoin d'être rassemblés. Ils sont déjà unis. Lorsqu'ils se rencontrent, ils disent, oh, mais je me vois moi-même là. Parce que l'un a Jésus, l'autre a Jésus. Ils se voient. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, unissons-nous. Non, oh, on est déjà unis. Laissez-nous tranquilles. Vous voulez quoi encore? Ce n'est pas de Dieu. La solution ne se trouve pas là-bas. Il y en a qui disent, mais dans ces réunions-là, on a senti la présence de Dieu. Oh, dans les réunions de Bob Marley, il y avait aussi la présence, une puissance. Dans les réunions de Michael Jackson, il y a aussi des puissances où tu sens une présence. Ce n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs commencent à s'habiller comme les évêques catholiques. La pollution. Et ils viennent là avec des bâtons. Boum, les gens tombent. Boum. Non, bien-aimé, non. Ce n'est pas ça la voie. La voie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus la solution. Que personne ne te trompe. La solution, ce n'est pas la médecine. C'est Jésus-Christ. La solution, ce n'est pas la retraite. Une bonne retraite. Il y a beaucoup de gens qui ont une tellement bonne retraite que les enfants ont fait un complot pour les envoyer vite à la maison de retraite pour manger leur retraite. Donc tellement ils ont une bonne retraite, les enfants ont mis la main dessus. Allez. Maison de retraite, le monsieur sort de l'hôpital, il revient chez lui. J'ai vu un Derrick récemment. Donc c'est ça qui m'a... Donc je passais les chaînes, je vois une petite scène où le monsieur sort de l'hôpital. Il pensait qu'il était... Il allait peut-être mourir. Il a tous les gars, ses enfants. Mais il y a eu un miracle. Il a été guéri. Et le jour où il sort de l'hôpital, on l'amène dans une voiture. Et il arrive, on lui montre une sorte de bâtiment, mais qui était très beau, le bâtiment. On dit, c'est là maintenant que tu vas habiter. Il dit, quoi? Ma maison où j'ai vécu 30 ans. Il refuse d'entrer. On le ramène dans sa maison. Il voit déjà, son premier fils est déjà installé avec sa famille. Il veut résister. On lui dit, non, tu avais déjà signé, tu nous as donné. Allez, vas-y, va-t'en. Le papa qui t'a nourri, qui t'a donné la santé, qui t'a protégé, qui a payé tes études, c'est comme ça que tu le remercies. Tu prends encore sa retraite. La solution, ce n'est pas la retraite. La solution, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Des gens qui sont piégés à la dernière minute. On lui dit, non, non, on t'amène dans un lieu où il y aura des gens qui pourraient te protéger en cas de problème. On ne lui dit pas que c'est une maison de retraite. Mais après, c'est trop tard. Tout le salaire, tout va dans le compte maintenant de l'enfant. On te déclare, incapable. Alors que tu es capable. La solution... C'est Jésus. La solution, ce n'est pas l'argent. C'est Jésus. L'argent ne donne pas le bonheur. Il peut nous donner une sensation de fausse sécurité. C'est de la fausse sécurité parce que le bonheur, c'est la joie. C'est la paix. On peut manquer d'argent tant qu'on a la paix, la joie, on est bien. On n'a pas besoin d'argent pour être en paix, en joie. Au contraire, l'argent divise plus d'un. Aujourd'hui, je veux que tu réalises et que tu reconnaisses que la solution, c'est Jésus. Ce n'est rien d'autre. Lui seul répond à toutes tes questions. Lui seul répond à tous tes problèmes. C'est l'intermédiaire entre nous et Dieu pour la réponse à toutes les questions.